Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Ce matin, je vous propose un voyage immobile en compagnie de l'écrivain Philippe Delerme, qui déteste voyager, mais qui nous amènera dans la quintessence de la ville selon lui, New York, alors qu'il n'y est jamais allé. La journaliste Sandrine Mercier portera un regard sur notre invité anti-voyageur. Notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette en vogue à New York. Christy Lapelle-Edouel vous conseillera des livres réconfortants aux forts accents new-yorkais à lire en ce week-end pluvieux. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo?
Alors un autre type de voyage fait de corbeilles de fruits, de grappes de raisins et de verres de vin à demi-vide posés sur une table. On voyage au pays des natures mortes.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
En pleine forme. Votre chronique c'est la vie
Pourquoi
du vendredi.
Pourquoi vous riez? C'est vrai, je suis en pleine forme.
Un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre ami cette semaine?
Alors, une jeune fille qui débarque à New York, et alors elle n'est vraiment pas immobile. On peut même dire qu'elle gambade partout, vous verrez.
Bonjour Maïe Mazorette, tu as déjà boulotté deux donuts.
C'est clair.
Maïa Mazorette qui préfère que je la tutoie tout au long de l'émission. Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission?
Oui, je voudrais attirer l'attention des auditeurs et auditrices sur un petit événement qui est en train de passer sous le radar. C'est la campagne présidentielle et elle a un impact énorme sur nos vies sexuelles.
A tout à l'heure. N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Racontez-nous votre amour ou votre déception de New York. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Bonjour à notre chef Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
En mai paraîtra un livre de vos savoureuses recettes que vous nous proposez depuis le premier confinement dans Grand Main vous fasse. Ça s'appelle Partage et ce sera publié à La Martinière. Petit avant-goût de votre recette à partager ce week-end.
Alors la recette de ce week-end, ça va être un direct pour New York, mais sans même s'y rendre, évidemment, avec un cheesecake, pas n'importe quel cheesecake, un cheesecake sans cuisson.
Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Rédactrice en chef du magazine de voyage AR, à la une du dernier numéro.
C'est la Croatie. Oh oui, à partir de nous, on y va en Croatie et on rapporte effectivement tout ce qu'on a vécu pendant ce voyage pour donner aussi envie d'y aller. On prend un bateau et on se faufile entre les îles de Dubrovnik et Split. On va par exemple à Korčula où serait né Marco Polo. On va à Vis, la belle endormie. Et on va découvrir Miette aussi où Ulysse aurait été retenu pendant 7 ans par Calypso. Nous, on est resté moins longtemps malheureusement, mais c'est un très beau reportage.
Et c'est à la une du magazine de voyage AR. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La première gorgée de bière et vous publiez au Seuil New York sans New York. Et je partage votre amour de New York, amour infini de New York, sans jamais y être allé.
Super, ça va. Welcome.
Ouais. On reviendra sur cet anti-voyage tout à l'heure, mais racontez-nous comment est né ce livre en quelques mots.
Ouais, il est né il y a longtemps, il y a bien une dizaine d'années. Je trouvais que c'était une idée paradoxale et bien littéraire de se dire, voilà, j'ai beaucoup rêvé de New York et puis j'ai envie de faire un livre sur New York. On a tous plein d'images de New York, plein de films, plein de livres. Et puis c'est vrai que bon, il y a aussi cette petite gageure d'arriver à parler des choses qu'on n'a pas faites. Et puis aussi de se dire parfois que les choses qu'on n'a pas faites sont aussi extraordinaires, parfois plus que celles qu'on a faites. C'est le sens d'une vie aussi. J'ai pas envie d'imaginer, si vous voulez, qu'il y a une liste avec des noms à biffer et puis de dire ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Il y a plein d'endroits où je ne suis pas allé, où je n'irai jamais. Et même plein d'endroits où je n'irai jamais parce que je sais que j'aimerais trop et que j'ai plus le temps d'y avoir des rites, des habitudes et que je tiens à ça.
Thibaut Saint-Maurice, vous aussi, vous n'êtes jamais allé à New York. Ça vous agace pas quand on vous dit « Ah bon, t'es jamais allé à New York ?»
Si, c'est toujours assez surprenant, mais en fait, la liste est longue d'endroits où on n'est pas allé dans son existence, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que ça place New York quand même sur une sorte d'horizon d'attente. C'est-à-dire que ça suppose presque une forme d'injonction, de on doit aller à New York. Et je suis assez séduit par l'idée selon laquelle, en fait, on pourrait ne pas devoir y aller, ou alors on pourrait y aller autrement, peut-être voilà, par la littérature, l'imagination, le style, la recréation peut-être. Donc je suis assez séduit par l'idée.
Bonjour Christy Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine. Allez, vous nous amenez à New York. Alors, vous nous proposez deux voyages littéraires qui se déroulent tout ou partie à New York. On commence avec Flâneuse de Lauren Elkin. C'est publié chez Eubek et c'est traduit par Frédéric Lebert.
Et je précise d'ailleurs que ça fait partie de la collection Étonnants Voyageurs qui a été créée par le regretté Michel Lebrun, donc j'en profite pour faire un petit salut au passage. Alors Lauren Elkin, c'est une autrice franco-américaine, elle est française depuis relativement peu de temps. Elle vit entre New York et la France et beaucoup d'autres pays. Elle est née à Long Island et elle a vécu une partie de son enfance, même toute son enfance jusqu'à son adolescence à Long Island, sans bizarrement avoir vraiment été à New York. Pourtant, Long Island, New York, et vous verrez, ça correspond aussi à l'autre livre dont je vous parlerai tout à l'heure, ce sont ces New-Yorkais qui sont nés dans une partie de New York, dans la banlieue, proche ou un peu plus lointaine, et pour qui New York est devenue une espèce de ville vers laquelle il voudrait aller, et ça prend du temps. Et donc elle, ça lui a pris quasiment toute son adolescence avant d'arriver à New York pour ses études, donc dans Manhattan. Et Manhattan, c'est le Graal, et voilà. Et donc elle a atteint le Graal. Mais ce qui est intéressant là, dans son livre, c'est que elle revendique, et c'est tout le propos de son ouvrage, le fait de flâner. Son propos, c'est la flânerie. Qu'est-ce que ça veut dire que de flâner, de dériver dans une ville? Alors elle prend comme exemple New York, évidemment, vous l'avez dit, mais d'autres villes comme Paris, Venise, Tokyo aussi. Tokyo, où on peut se perdre magnifiquement bien. Et le voyage, les petits voyages qu'elle fait en flânant dans New York, alors d'abord, elle les revendique en tant que femme seule, point important, parce que flâner, et dériver dans une ville en étant une femme isolée, c'est pas forcément évident, sans se faire embêter, sans être interrompue, en pouvant aller où on veut. Ça, c'est vraiment une liberté que les femmes n'ont pas forcément, donc elles le revendiquent. Et par ailleurs, sa dérive dans ces villes est aussi l'occasion pour elle de dériver dans ses pensées et justement dans les auteurs qu'elle a lus. Alors il y a énormément de femmes qui ont parlé, alors elle en cite plein, elle cite des cinéastes aussi, dont Agnès Varda, elle en cite plein, et ce livre est une... Oui, le voyage extérieur correspond au voyage intérieur. C'est vraiment... elle s'inscrit dans une tradition tout à fait anglo-saxonne qui est cet art de parler de soi sans parler de soi, en parlant d'autre chose et en évoquant des souvenirs et en analysant des phénomènes. Alors elle analyse le phénomène urbain, l'architecture, l'urbanisme. Et c'est vraiment... C'est remarquable. De bout en bout, c'est drôle. Ces réflexions vraiment rebondissent comme des balles sur un mur, vous voyez. Une chose lui fait penser à autre chose, lui fait évoquer encore autre chose. C'est remarquable de bout en bout. Elle me fait penser beaucoup à d'autres écrivaines féministes américaines comme Rebecca Solnit. Je jette un coup d'œil vers Maya, qui connaît aussi, une grande écrivaine. Je vous en parlerai un jour ou l'autre.
Maya qui lorgne sur Flâneuse de Lauren Elkin.
Oui, ça va aller chez elle. Oui, ça va aller chez elle. Et voilà. Et alors elle regarde les changements de la ville. Elle compare la ville dans laquelle elle se promène à la ville qu'elle a connue quand elle était adolescente, et même la ville qu'elle a connue quand elle était enfant avec ses parents et que c'était le grand voyage d'aller à New York. Et de bout en bout, c'est passionnant. Alors, comme elle, prenons le temps de déambuler dans les pages. On n'est pas obligé de se dépêcher, surtout que c'est assez intense. Il y a beaucoup de choses, elle évoque énormément de choses. Et tout l'esprit de New York est dans ces pages, hein, caché derrière les buildings, les boutiques, les lignes de métro. Est-ce que j'ai le droit, Ali, vous m'autorisez à lire un minuscule, vraiment, je vous assure, c'est pas long. Quelque chose hantait la ville alors, le fantôme de Dorothy Parker, d'Edith Wharton ou de quelqu'un que je n'avais pas encore lu. Cette chose vivait dans les immeubles que le temps avait rendus de guingois sur Barrow Street. Elle était dans les carreaux et les tomettes de leur salle de bain d'Ecati. C'était une chose que je voulais saisir dans mes écrits, une chose que je voulais devenir. Voilà, c'est ça. Ai-je songé? C'est exactement ça. Et voilà. Et tout New York, en quelques lignes, franchement, je trouve que tout New York est là. Et pourtant, hein, je suis gentille parce que New York est une ville, j'ose le dire, je vais me faire tuer, que je n'aime pas.
Ben dis donc. Philippe Delerme, quel flâneur êtes-vous?
Ah, je suis un flâneur de tout. Je suis avant tout flâneur, je crois, d'un peu la vie en général. Donc, un promeneur, bon, c'est vrai que je suis pas un grand compreneur de vie. Mm-hmm. Donc, j'ai rapidement été ressenti dans mes études comme nul en physique, en maths, etc. Et donc, et d'une façon générale, ben voilà, j'ai un enfant qui m'a jamais posé la question pourquoi, comment ça marche. Enfin, donc, vous savez, la fameuse question auxquelles les parents savent pas répondre. Moi, il était bien évident que j'étais fait.
Ils ont bien compris que
ouais, c'était voilà, pas la peine.
Pour jouer au foot, pour regarder et pour apprendre à glander, ça, j'étais super, peut-être un bon père potentiel, mais.
Donc ça s'appelle Christine Appelé-Douelle, flâneuse de Lorraine Elkin.
Avec une magnifique photo en couverture.
C'est publié chez Eubek et c'est traduit par Frédéric Lebert. Second voyage immobile à New York, alors, avec La femme à part de Viviane Gornick, paru en poche chez Rivage, et c'est traduit par Laetitia Deveau.
Alors là, j'avoue humblement que je suis une fan, une adoratrice de Viviane Gornick, de son écriture, de son œil, de son style, de tout. Alors Viviane Gornick, c'est une superstar aux États-Unis. Je jette toujours un coup d'œil vers Maya pour être sûre que je ne dis pas de bêtises. Une superstar de la littérature en général et de la littérature féministe en particulier. Elle a 86 ans, donc elle est largement l'aînée de Lorraine Elkin. Son livre, c'est le premier qui a été traduit en français. Elle est tellement connue qu'elle n'a été traduite en France qu'en 2017, ce qui est quand même très surprenant, très étonnant, mais c'est comme ça. Alors, elle a été journaliste, elle a été prof, elle a fait des tas de choses. J'ai découvert par hasard que ses parents étaient ukrainiens. C'est étrange. Mais c'est donc, et c'est ce que vous allez dire, je suppose, tout à l'heure, c'est une pure New-Yorkaise. Parents ukrainiens, elle née à New York, pure new-yorkaise, des familles mélangées, le cosmopolitisme, les gens qui viennent de partout, de toute l'Europe, de l'Amérique du Sud, de tous les coins du monde. Elle est née, elle aussi, et elle a été élevée dans le Bronx, donc dans un quartier de New York qui n'est pas à Manhattan, et elle aussi, enfant, donc les générations se suivent et par rapport à ça se ressemblent, n'a pas été dans Manhattan avant également un âge avancé. C'est quand même ça, c'est un phénomène qui m'a beaucoup frappée, c'est étrange. Mais c'est comme ça. Et donc elle a été fascinée, c'était son but, c'était son rêve dans la vie d'aller à Manhattan. Évidemment, ce qu'elle a fait, évidemment, elle y a vécu, elle y vit encore. Et c'est toujours chez elle ce mélange qui est tellement... Je vais dire anglo-saxon, mais c'est peut-être encore plus américain même qu'anglo-saxon, qui est délicieux d'autobiographie, de réflexion littéraire, poétique, politique, ce qu'on appelle le personal narratif, qui n'a rien à voir avec l'autofiction, rien du tout, et social. Et le tout relevé par un humour qu'on pourrait peut-être, en effet, qualifier de new-yorkais. Alors, c'est toute la modernité de son approche. Elle est féministe, mais elle n'est jamais sentencieuse. Elle est libre, elle est pleine de d'allant. Et donc, cette autobiographie pose la question de savoir ce qui fait d'elle Viviane Gornick une femme à part. Voilà. Et c'est un écho à cette interrogation. Elle se balade, elle aussi, dans New York. Et chaque rue, chaque endroit, chaque librairie est l'occasion d'évoquer non seulement des souvenirs, mais des gens qu'elle a rencontrés et ce qui fait l'essence même de New York qu'elle essaye de capter et qu'elle arrive. Je ne suis pas new-yorkaise du tout, mais je suppose qu'elle arrive très bien à le capter. Est-ce que j'ai droit encore aussi
oui.
oui. Oh
là là. Oui, le genre oui, parce Ali qu'il consent. Le faut. Oui, parce qu'il le faut bien, je ne peux pas faire autrement. Voilà, alors là, elle parle du moment où à 14 ans, elle a pu enfin aller à Manhattan. À 14 ans, j'ai commencé à prendre le métro et à parcourir Manhattan de long en large, tard les soirs d'hiver ou dans la chaleur de l'été. La seule différence entre quelqu'un du Kansas et moi, c'est que depuis le Kansas, on ne fait le grand saut de l'immigration qu'une fois. Alors que moi, je tentais de multiples incursions vers Manhattan pour retrouver ensuite mon chez-moi, le confort et la réassurance, l'ennui et l'attente, avant de saisir véritablement ma chance.
Guillemette Odissino.
Ah mais je suis complètement fan, bah, comme Maya, de Viviane Gornick. Moi, je conseille aussi Attachement féroce, qui est vraiment
c'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre et inépuisable. qui est un, en fait, des notes de relecture où elle relit les romans qu'elle aime et elle nous dit pourquoi elle les aime et c'est mais somptueux.
Et puis c'est, il y a la relation avec sa mère, ouais. Sa terrible mère, Maya. Abusive.
Et puis forcément, en tant que femme seule qui lit des femmes seules à New York, on se reconnaît aussi dans une déambulation qui va de quartier en quartier. Et le Bronx, c'est au nord de Manhattan, donc on la voit redescendre et on descend avec elle. C'est génial.
Vous avez vécu 6 ans. Hein,
6 ans et demi. À New York. Je suis rentrée quasiment pour travailler avec toi. Allez.
offrez-vous un voyage à New York pour 7,70 €. C'est La femme à part de Viviane Gornick et c'est publié chez Rivage Poche. Alors, comme vous, Philippe Delerme, je suis passionné par les romans qui se déroulent à New York. Le Bûcher des Vanités de Tom Wolfe, Les New-Yorkaises d'Edith Wharton, Last Exit to Brooklyn d'Hubert Selby Jr., mais aussi Les Nouvelles de Dorothy Parker. Vous, pourquoi est-ce que vous aimez tous ces romans qui se déroulent à New York ?
Alors, c'est pas forcément ceux-là que je connais, oui. et que j'aime. Un peu curieusement, enfin, il y a deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué, et qui sont Herman Melville et donc Walt Whitman. C'est vrai que, et par ailleurs, j'ai aussi un compagnonnage qui est devenu quotidien avec Charles Dickens, écrivain donc très anglais et très, très connu, très célèbre et très méconnu, puisque personne ne lit Dickens, en fait.
Et qui a passé 6 mois à New York. Hein.
Ah, beaucoup plus que ça.
Aux États-Unis.
Il est allé 2 fois aux États-Unis. Ouais. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que Dickens, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu très vieux. Il a vécu 57 ans. Et on peut dire qu'il est mort de New York, en fait. Parce qu'il avait, il avait connu un succès incroyable avec ses lectures publiques. En Angleterre, déjà, c'était un gros succès. C'était plus des lectures, c'était du théâtre, parce que en fait, il lisait des extraits de Pickwick, notamment, ou de Oliver Twist. Mais en fait, il avait un public très populaire, Dickens, parce qu'il publiait dans les journaux, les feuilletons interposés. Enfin, il était très très lu, il était très aimé de toutes les couches de la population, et les gens venaient dans les salles pour l'admirer. Il venait à 2000 ou 3000, ce qui nous paraît incroyable, que sans sonorisation, on puisse faire passer des textes comme ça dans une salle. Et en fait, quand il est venu à New York, tout à fait à la fin de sa vie, ça a été une ivresse, parce que là, c'était plus un succès, c'était un triomphe. Et il a été complètement épuisé, il était incapable de mettre un pied devant l'autre dans la journée, il prenait du laudanum pour surmonter et monter sur scène le soir, et en même temps, il a connu un triomphe incroyable dans ses lectures à New York, et je trouvais ça beau, parce que c'est un peu paradoxal, c'est une ville, on peut dire quelque part, qu'il a tué et qu'il a aimé profondément, voilà.
Et vous pouvez retrouver les conseils de Chrissy Lapelle-Douelle sur le site et sur l'appli France Inter. 10h24, allez, il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors Guillemette Audicino, quel personnage de fiction mérite notre amitié cette semaine ?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, cher Philippe Delerme, puisqu'il s'agit de voyager à New York, laissez-moi vous présenter Holly Golightly. L'héroïne du roman de Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany. Alors, je commencerai par cette injonction choquante, je sais. Oubliez Audrey Hepburn. Oubliez Diamant sur canapé, l'adaptation au cinéma, certes merveilleuse, de Black Edwards. Car la Holly de papier transporte plus de mystère et de modernité. Nous voilà avec un narrateur anonyme qui se retrouve voisin et fasciné par une fille de 19 ans, très mince, avec des cheveux blonds coupés courts et d'éternelles lunettes noires, mais c'est parce qu'elle louche un peu. Sur sa boîte aux lettres est écrit « Holly Golightly, voyageuse de commerce ». Traduction ? Elle voyage d'homme en homme. Bon, soi-disant mannequin, en fait, Holly est une pute. Souvent, elle rentre tard avec un type aviné à son bras. Et tout le monde le sait dans ce petit immeuble en pierre brune de l'Upper East Side, puisqu'elle perd tout le temps ses clés. Et ça la fait rire aux éclats à 3h du mat sur le palier. Et puis, de temps en temps, tout de même, Holly a le spleen.
Vous savez, il y a des jours où on se met à broyer du noir.
À broyer du noir ? Vous voulez dire quand on a le cafard ?
Non, ça c'est parce qu'on grossit ou bien parce qu'il pleut les journées entières. Là, on est triste, c'est tout. Et broyer du noir, c'est affreux. Tout à coup, on a peur, on ne sait pas pourquoi on a peur. Vous avez déjà éprouvé ça ?
Oui.
Mais alors, Holly, est-elle frivole ou pas, Guillemette ?
Elle a décidé d'être superficielle. Elle a décidé de se ficher de tout, de faire et dire ce qu'elle veut, et même son contraire. Complètement consciente de l'homosexualité de son voisin, le narrateur, elle admet même être un peu lesbienne sur les bords. Quand elle déprime, elle imagine qu'elle habite le décor du joaillier Tiffany. Et tous les jeudis, elle fait une visite à la prison de Sing Sing. Pour écrire ce personnage unique, Truman Capote se serait inspiré de sa propre mère, une belle du Sud qui rêvait d'habiter sur Park Avenue et qui, pour ce faire, l'abandonna. Et d'un de ses signes, comme il appelait certaines de ses amies, ces élégantes de la jet set qui étaient toutes maquées avec de grandes fortunes. Mais comparé au signe, Holly est un vilain petit canard qui ne croit ni à l'amour ni à l'espoir. Libre comme l'air, indépendante par essence.
Mais pas de naissance.
Non, car Holly a décidé de s'alléger de son vrai nom et d'un passé pas marrant du côté du Texas. À la manière de ses filles que Capote décrit avec des mots cruels, mais qui n'ont pas pris une ride sociale. Chaque année, New York voit affluer ce genre de filles, et il y en a deux ou trois, des mannequins en général, qui parviennent à se faire un nom et réussissent à faire parler d'elles dans les rubriques potins. Et puis elles disparaissent, épousent un comptable ou un dentiste, et une nouvelle fournée de filles arrive du Michigan ou de la Caroline du Sud et rebelote. La principale raison pour laquelle j'ai écrit l'histoire de Holly Golightly, outre le fait que je l'aimais tant, c'est qu'elle symbolise tellement bien ces filles qui débarquent à New York pour volter au soleil comme des éphémères avant de disparaître. Je voulais en sauver une de l'anonymat pour lui offrir la postérité. Et il l'a fait. Avec cet immense roman doux amer, il a fait de Holly la plus étincelante preuve que la liberté commence par la légèreté. Et à travers elle, il a sauvé toutes celles qui ont bien raison de s'inventer de plus folles identités.
Petit déjeuner chez Tiffany à lire en folio. Et la chronique de Guillemette Odissino est à partager et à podcaster sur l'appli France Inter. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Pouc-Jalagui avec l'aide d'Alice Galtier. La réalisation a été signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, le duo de choc Kevin Pelot et Pauline Laverdure. Dans un instant, direction New York, sans jamais y être allé, avec Philippe Delerme. Ce sera juste après Étienne Daou.
Personne, c'est tout ton être qui m'étonne.
Étienne Dao, Common Blue.
Overseas 404, this is New York approach.
Grand bien vous fasse.
Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport international de New York.
Ali Rebi.
Nous vous prions de redresser vos fauteuils, d'éteindre vos cigarettes et d'attacher vos ceintures.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse loisir et un voyage immobile à New York en compagnie de l'écrivain Philippe Delerme.
Chapitre 1. Il adorait New York. Il l'idolâtrait au-delà de toute mesure. Il romançait New York au-delà de toute mesure. Et pour lui, quelle que soit la saison, elle restait une ville qui existait en noir et blanc et qui vibrait au rythme du grand Gershwin. Je recommence. Chapitre 1. Il était dur et romantique comme la ville qu'il aimait. Derrière ses lunettes d'écaille, il y avait en filigrane la puissance sexuelle d'un félin de la jungle. Ça, j'adore. New York était sa ville et elle le resterait à jamais.
Extrait de Manhattan de Woody Allen, Philippe Delerme, vous publiez donc New York sans New York aux éditions du Seuil. Vous êtes un amoureux de New York sans jamais y avoir mis les pieds. Je vous cite, tous ces films regardés, toutes ces photos, tous ces albums, tous ces livres, non pas pour aller à New York, mais un peu bizarrement pour ne pas y aller, pour préserver le secret d'une ville essentielle qui ne supporterait pas d'être tant soit peu violée par la réalité.
Ce qui est amusant, c'est que deux jours avant de venir ici, je suis tombé sur des vers de Victor Hugo qui sont consacrés non pas à New York mais à Rouen, et dans lesquels il dit « J'ai fait souvent ce rêve d'aller voir Saint-Ouen, donc une église de Rouen, à moitié démolie, et tout m'a retenu, la famille, l'étude, mille soins, et surtout la vague inquiétude qui fait que l'homme craint son désir accompli. » Alors c'était un petit peu assez bon, évidemment c'est dit avec la cadence de l'Alexandrin, mais c'est quand même bien l'idée quoi.
New York restera un fantasme, vous fantasmez New York au point donc de refuser d'y aller. C'est pour garder le New York que vous aimez, ce New York de Woody Allen, par exemple.
Oui, notamment celui de Woody Allen, mais aussi celui de, peut-être plus profondément, celui de mon adolescence, parce que je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le 45 tours de Bob Dylan, Blowing in the Wind. J'ai 15 ans, voilà, j'acquiers ce 45 tours, on voit Dylan qui marche dans une rue de New York avec une fille à son bras. J'évoquais mon fils Vincent tout à l'heure, mais il m'a même cité le nom de la fille, là, j'ai le chapeau. Mais c'est vrai que c'est une belle couverture de disque. Et puis, c'était l'adolescence et c'était le début du protest song. C'était aussi, voilà, une rébellion. Enfin, vous imaginez que dans mon cas, c'était pas une rébellion forcément sanguinaire, mais c'était quand même une rébellion. Et c'était quand même Dylan et c'était quand même ces paroles que je comprenais pas toutes, mais celles que je comprenais m'enflammaient, quoi, complètement. Et puis, de même, deux ans après, bon, bah, j'ai le poster de James Dean avec la photo que tout le monde connaît où il marche dans Times Square avec son col relevé. Et donc, et ça aussi, c'est quand même quelque chose. Après, c'est des choses qui m'ont marqué. Moi, j'ai vu les films de James Dean en séchant le cours d'éducation physique à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je regarde La Fureur de Vivre, bon, je pense que l'image de la caricature du père avec son petit habillé de cuisine, ça passerait peut-être un petit peu mal. Mais par contre, il y a l'intériorité que Dean mettait dans ses films. Alors, tout ce que j'ai lu dessus, cette façon d'analyser un personnage de l'intérieur, d'être, non pas par le comme ça, l'extériorité du personnage, mais par son intériorité, ça m'a fasciné. Et puis, ça peut-être ressemblait à une forme de tempérament, peut-être secrètement rebelle, en fait.
En allant à New York, vous avez peur de prendre le risque d'y trouver moins que New York ?
Oui, en fait, j'avais tellement de signes qui étaient des signes forts. Un des premiers signes aussi, des images qui m'ont marqué, c'était la pochette, puisqu'à l'époque, c'était très important, les pochettes des vinyles. Vous savez, c'était vraiment cette époque où, quand on prenait un disque, on restait en écoutant le disque, on n'avait qu'une chose à faire, c'était le recto et le verso du disque en question. Ça revient un peu avec la mode des vinyles en ce moment. Et notamment, c'est vrai que Simon et Garfunkel et Sound of Silence m'avaient beaucoup marqué avec une photo où on voyait le grillage comme ça qu'il y a dans Central Park. Et moi, bon, et puis on aperçoit les arbres comme ça, les frondaisons. Quand on aperçoit un peu d'automne aussi dans Central Park, je trouve que c'est très fort. Pourquoi ? Parce que l'automne dans Central Park a quelque chose de magique, mais c'est comme ça. Et puis après, il se trouve que dans le cas de Simon et Garfunkel, il y a un truc quand même extraordinaire, c'est que quelques années, assez longtemps après, ils se retrouvent pour faire un concert devant 500 000 personnes dans Central Park. Et que, bon, la police en avait prévu 300 000, il y en avait 500 000. Et que ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, pour moi, les deux grandes chansons de ce tour de chant, c'est Sound of Silence et Bridge Over Troubled Water, qui sont deux chansons sur la solitude. Et vous avez quand même 500 000 personnes rassemblées pour écouter le son angélique de Simon et Garfunkel, qui passe quand même dans Central Park avec le message de la solitude extrême des gens dans New York.
Comme le dit justement le journaliste Mohamed Aïssaoui dans le Figaro, votre New York a beau être fantasmé, il est profondément ancré en vous.
Oui, parce que notre vie est faite comme ça de fantasmes, et on en a beaucoup à propos de toutes les villes. Mais moi, c'est vrai que j'ai écrit dans un autre livre que celui de sur New York, que c'est aussi une rêverie sur des mots en fait. Et par exemple, je parlais de Central Park, et c'est un livre dans lequel j'avais mis les mots que je préfère, et j'avais mis Central Park justement. Et j'avais écrit là-dessus, si je peux me permettre, mais je crois que là, je vais reproduire le procédé. Tout
oui.
À l'heure. Et si j'ai la réponse non, là, je vais être rentré avec ça.
Oui.
Alors donc c'est New York est le centre mental du monde et Central Park est le centre du centre. Nous y avons tous les mêmes images et pourtant la certitude que nous avons les nôtres, c'est le principe des mots, ils sont à tous et nous appartiennent cependant. Je n'irai jamais à New York, c'est mieux. Je n'ai pas envie de mêler ce grillage le long du lac au froid, à la chaleur que je pourrais y ressentir dans mon vrai corps. Je préfère que ce soit le verso de la pochette du 33 tours de Simon & Garfunkel, la fuite des joggeurs, la mélancolie de Woody Allen flottant dans les feuilles, un délicieux jamais, deux pommes et un sandwich, un sac de papier brun, le sentiment d'être si seul et tellement avec tout, avec tous.
Alors, j'ai repéré dans votre livre une expression que je ne connaissais pas, « Allez voir la cigogne ». C'est une expression de l'écrivaine Karen Blixen et de son frère. « Allez voir la cigogne » exprime l'envie d'un ailleurs, le but ultime de la vie. Ouais. Ça ne vous enchante pas beaucoup de voir la cigogne, de voyager?
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai, dans le cas de Karen Blixen, c'est particulier puisque donc voilà, elle est danoise, et elle a bien sûr cette expérience, la femme africaine et tout ça, mais elle reste quand même complètement elle-même aussi. Je pense que qu'on ne change pas. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que j'étais contre le voyage. Oui. Non, je fantasme et j'ai fait des voyages, des longs voyages, mais dans des endroits qui étaient plus particuliers, beaucoup en Scandinavie par exemple. Je suis allé beaucoup en Suède ou au Danemark l'été sur la piste d'écrivains.
Mais vous n'êtes pas un voyageur dans l'âme. Vous n'êtes pas un voyageur dans l'âme.
Non, je suis pas voyageur dans l'âme.
Sandrine Mercier, du magazine AR.
Mais moi, je crois que je le suis devenu justement grâce à New York. On va dire ça comme ça. Il y a 30 ans, je m'en souviens. C'était la première ville là où j'ai atterri pour faire ce tour du monde que j'avais rêvé de faire pendant un moment. Et justement, dans cette première ville, je me disais, mais si je suis arrivée, mais j'avais un sentiment, mais d'exaltation, en flânant justement la nuit et la journée, en vivant sur ce trottoir où il y avait l'ombre des immeubles. On était toujours un peu dans l'ombre, dans le noir, les fumées qui émanaient comme ça des trottoirs, et je me disais vraiment mais ça y est, je suis là, je suis pas dans le film, je suis dans le film que je crée, je suis plus spectatrice. Il y avait quelque chose mais d'une liberté incroyable de vie, en me disant ça y est, j'avais choisi d'être là, de vivre et de plus rêver justement. Et je crois que je suis pas une rêveuse, et New York pour moi ça garde cette passion, cette folie aussi d'avoir osé faire ce que je voulais. Et on découvre en arrivant par exemple à New York qu'on comprend rien, que j'étais bonne à l'école en anglais, j'arrive là-bas, je comprends personne, enfin c'est tous des sentiments, on se sent complètement déstabilisé aussi, le choc entre les images qu'on a et ce qu'on vit, et tout ça, moi c'est pour ça que j'aime le voyage en
mais
fait.
Vous comprenez cette idée d'aimer une ville sans jamais y avoir mis les pieds?
Oui, moi j'ai le fantasme d'Istanbul par exemple. Pour l'instant, je me le garde au chaud pour quand je serai un peu plus... dans quelques années, j'irai à Istanbul.
Maya Mazoret.
Deux petites choses. La première, c'est que New York, il y a tellement de choses à faire que c'est pas grave de désacraliser parce qu'il reste 1000 choses à découvrir. Et deuxième chose, Philippe, j'ai l'impression que vous voulez pas voyager dans l'espace parce que ce que vous voudriez, c'est voyager dans le temps.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, ce livre, c'est un voyage dans ma vie. En fait, j'ai écrit mon livre précédent, c'était La vie en relief, sur ce sentiment que j'ai très fort d'être à la fois un enfant, un adulte d'âge mûr et aussi un vieux. Donc, d'être tout ça en même temps, quoi. Pas l'un plus que l'autre. Et je pense que c'est vrai que ce livre, c'est aussi un livre sur mon relief du temps, c'est sûr.
Petite précision, Philippe Delerme, si vous refusez d'aller à New York, ce n'est pas par phobie de l'avion. Hein.
Non, parce que figurez-vous que j'ai pris quand même l'avion une fois dans ma vie, donc je suis débarrassé avec ma phobie de l'avion. Je l'ai pris une fois pour aller commenter l'athlétisme aux Jeux Olympiques, alors évidemment il y avait une forte motivation.
Alors votre New York fantasmé est tissé de fiction, de films, de photographies. Il n'y a pas de série. Je sais qu'autour de la table, nous sommes nombreux à être fans de séries, et c'est vrai que le New York de Friends, de la série Seinfeld, de Sex and the City...
Friends, je pourrais, parce que...
Oui, il y a un nouveau mot, c'est Central Perk.
Non, mais je suis devenu très très féru de Friends depuis que mes petits-enfants l'ont découvert, mais c'est tout récent.
Et racontez-nous ce New York tissé de toutes ces fictions.
Bah, les fictions, en fait, y en a une aussi qui m'a habité comme beaucoup d'écrivains, c'est Herman Melville et Bartleby. Parce que c'est, Bartleby, c'est vraiment une nouvelle qui a eu un pouvoir alors sur les écrivains incroyable, puisque on, et c'est une cristallisation autour de l'idée de Bartleby, qui est quelqu'un, donc, qui refuse, en fait, qui refuse tout, quoi. Mm. Donc, il préfère not to. Et donc, effectivement, et ce qui était un peu symbolique, c'est qu'il, c'est quand même, sous-titré, la nouvelle de Melville est sous-titrée Une histoire de Wall Street. Et lui, il est devant un mur, effectivement, dans son bureau. Et c'est un petit peu comme si tout le libéralisme, le capitalisme allait dans le mur aussi avec l'image de Bartleby et l'image du refus. Et puis je trouve que ça va. Pour moi, c'est un peu ton sur ton aussi avec le côté hypochondriaque de Woody Allen, quelqu'un qui est complètement paradoxal aussi par rapport à la sûreté, l'assurance que devrait avoir une grande ville. Mais non, il y développe simplement une immense inquiétude. Et moi, j'aime toutes les pensées paradoxales. Ce qui fait que j'ai aimé la littérature, c'est que en commençant L'Archer du Temps Perdu, j'ai lu au bout de 10 lignes de L'Archer du Temps Perdu, le désir de trouver le sommeil me réveillait. Et c'est ça qui m'a rendu complètement accro pour Proust pour toujours. Parce que je pense que, voilà, j'ai pas une pensée très logique, comme je vous disais tout à l'heure, mais j'aime beaucoup tout ce qui est paradoxal.
Vous citiez Wall Street. Dans votre voyage immobile à New York, il y a également ce plaisir des noms. Madison Square Garden, ouais. Brooklyn, Central Park, le Queens.
Oui, c'est vrai. C'est un plaisir des noms qu'on retrouve tout le temps, même quand on ouvre l'équipe, puisque bon, New York, c'est aussi la ville du marathon de New York, et qui est devenue quand même très mythique, avec cette histoire incroyable que le gars qui a créé le vrai marathon de New York, celui qui traverse les 5 boroughs de la ville, donc toutes les couches sociales de la société, alors qu'au départ, il était seulement à Central Park, c'est quelqu'un qui a été victime d'une crise d'aphasie en faisant un discours sur le marathon de New York, et donc, il a eu une tumeur au cerveau. Et à 65 ans, il a fait le marathon de New York, les deux bras collés au corps, à quelques mois avant de mourir. Et il y a des images de ça. Et donc, on entend ce reportage qui est incroyable. Il y a une espèce d'ovation très, très émouvante. Et il y a cet hommage aussi qui est le fait de toutes les grandes villes à la course à pied, qui est une chose. Alors, souvent, ce que l'on vit, c'est ce qu'ont vécu les Américains avec 20 ans d'écart. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je courais dans les rues de Paris, on me regardait avec un œil bizarre. Alors que maintenant, c'est plutôt comme dans Les Saints sans paix que j'évoque dans son album sur New York.
Par avion. Merveilleux album.
Ouais, c'est un merveilleux
par avion.
Album. Et en fait, c'est dans Central Park, et tout le monde court, et il y a simplement un couple qui marche, et une voiture de police qui s'arrête à côté d'eux, qui leur dit, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, on a ça parfois aussi au Luxembourg.
Au jardin du Luxembourg. Sandrine, merci.
Non, c'est vrai que le voyage immobile, bon, moi, je suis pas trop pour, je dirais, parce que je suis pas une grande rêveuse, il faut le dire. Moi, je préfère me coltiner la réalité, et c'est ça qui, pour moi, c'est ce qui est vivant, et c'est ma propre appréciation des choses, de ce que j'ai touché, senti, respiré, c'est ça qui me rend vivant, et c'est ça que le voyage m'apportait.
Le regard de Gregory Cohen, grand amoureux de New York.
Moi, New York, c'est une ville qui m'a sauvé. J'y suis allé, en fait, j'étais à Haïti en 91 pendant le coup d'État. Et le seul avion, le seul départ, c'était un départ à New York. Et donc, je me retrouve avec un début d'histoire d'amour avec cette ville salvatrice. Et puis, je comprends pas comment Christy-là peut ne pas aimer New York en y étant allée, parce qu'en réalité, il n'y a pas un New York.
Mais
Christy-là, il n'y a pas un New York. Il y a plein de New York. C'est un creuset de plein d'histoires entrelacées quand on regarde Manhattan, qui est sans doute l'endroit le plus connu des 5 boroughs de New York. Il y a Chinatown, il y a Little Italy, il y a Soho, il y a East Village, il y a Greenwich Village. C'est rempli de culture, c'est rempli d'énergie, c'est exceptionnel. Je comprends qu'on fantasme New York au point de ne pas vouloir y aller. Mais je comprends pas qu'on y soit allé et qu'on l'ait pas aimé. Ça, c'est.
Bah, c'est le droit de Christy Lapelle-Edouelle.
Moi, ce que je trouve fascinant avec New York, c'est qu'en fait, on peut réconcilier tout le monde. Ceux qui rêvent New York et ceux qui y vont vraiment. Parce qu'en fait, ce n'est pas la même ville. Le New York dont on rêve, le New York des fictions.
Des films.
Le New York qui nous a bercé, effectivement, sur les pochettes de disques ou au cinéma. Et puis après, on arrive à la ville, New York. Et c'est une autre rencontre. En fait, donc, il y a le réel. Et le fantasme au même endroit.
Philippe Delerme, vous restez avec nous. C'est l'heure de la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, ce matin, vous nous proposez de réfléchir à ce que l'on voit, à ce que nous ne voyons plus et à ceux qui nous regardent.
Oui, ça paraît un petit peu mystérieux, hein, dit comme ça, mais puisque dans cette émission, donc avec Philippe Delerme, nous sommes capables de voir et de parler d'une ville sans y avoir été, je me suis dit qu'on pourrait varier un peu les situations. On peut donc connaître quelque chose sans l'avoir vu, ça peut être une ville donc, à travers les lectures, les fictions, les films, les pochettes de disques, mais ça peut être aussi un triangle ou une formule mathématique ou un événement historique. Mais d'un autre côté, il ne suffit pas de voir pour connaître. On nous a appris à nous méfier de ce que l'on voit. Ou bien parce que les apparences sont trompeuses et peuvent causer des illusions, ou bien parce que nos yeux ne seraient pas assez précis et que une ou plusieurs parties de la réalité leur échapperaient. Ou bien encore parce que notre regard est prédéterminé par des habitudes, des conventions, des standards qui sont liés aux nécessités de la vie. Mais il y a des exceptions. C'est le cas des écrivains ou des artistes. Pour le philosophe Bergson, l'artiste c'est, je cite, « un homme qui voit mieux que les autres car il voit la réalité nue et sans voile ». Contrairement donc à ce que l'on pense parfois, les artistes, par exemple les peintres, donc, ne créent donc pas à partir de leur imagination, mais à partir d'une vision extraordinaire de la réalité vraie, hein, pour le dire vite. Tandis que tous ceux qui ne sont pas artistes, comme moi par exemple, eh bien, ne voient qu'une dimension partielle de la réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains tableaux ou certaines œuvres nous déstabilisent. C'est qu'elles nous proposent une autre vision de la réalité à laquelle nous sommes habitués.
Mais parfois c'est le contraire, on ne voit pas bien ce que le regard de l'artiste apporte, par exemple dans le cas des natures mortes.
Oui, justement, c'est précisément dans le cas de la nature morte que l'on peut faire l'expérience de cette différence de vision. On a tous déjà vu un tableau représentant une corbeille de fruits, un bouquet de fleurs, ou les restes d'un repas ou de livres ouverts sur une table. La corbeille de fruits du Caravage, par exemple, les pommes de Cézanne, les plans de travail de cuisine de Chardin sur lesquels on voit des poissons évités, la vaisselle de cuivre ou d'étain, des fruits. La nature morte, c'est un classique de la grande peinture et de tous les cours de dessin. Et à chaque fois qu'on en voit une, on peut se poser la question. Alors, à part l'exercice de style, à part montrer son talent ou sa technique, genre on sait bien dessiner les grappes de raisin, à quoi bon représenter, donc c'est une grappe de raisin justement, des pommes, un verre de vin ou une assiette avec des restes de repas? Eh bien précisément parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'y prête pas suffisamment attention. Ces fruits posés là, ces restes de repas, cette vaisselle font partie du décor de nos vies quotidiennes. Ils sont dans le paysage ordinaire de nos existences mais n'ont rien d'extraordinaire. Et du coup, nous les voyons à peine. Et pourtant, ils sont là, même quand il n'y a plus personne pour les voir. C'est ce qui continue d'exister même quand nous ne les regardons plus. C'est ce qui reste. Et pour une fois, grâce au regard du peintre qui en fait son sujet principal, ils sont au centre du tableau et de notre attention. En fait, ce ne sont pas des choses mortes, mais elles sont bien vivantes. Comme le dit le philosophe Jacques Dariula, elles font acte de présence. Et c'est à se demander au fond si c'est nous qui les regardons ou si ça ne serait pas plutôt ces choses-là qui nous regardent, comme si c'était nous qui faisions partie du décor de leur existence. Voilà, la puissance de ces tableaux, c'est qu'ils nous apprennent à envisager d'autres regards que le nôtre sur le monde et sur les choses, ils nous apprennent à voir autrement, ils nous montrent que nous sommes aussi regardés par ce que nous voyons, et que ce que nous voyons existe aussi indépendamment de nous. Une corbeille de fruits, trois pommes, les reliefs, comme on dit, d'un repas, nous proposent une révélation métaphysique. Il y a quelque chose plutôt que rien. Il y a des choses qui existent, là, devant nous, pour elles-mêmes. Et rien que pour cela, elles ne sont pas négligeables.
Et je pourrais méditer pendant des heures devant des natures mortes de Chardin. Philippe Delerme, vous êtes sensible à la beauté mystérieuse des natures mortes.
J'écris en ce moment un recueil de textes sur les choses assez minuscule, notamment je viens d'écrire un texte sur une espèce de rétractation tactile quand on prend une pêche blanche dans la main, et ça me parle beaucoup, enfin ce genre de choses. Vous avez raison, ces choses-là nous regardent et on les regarde aussi, et elles sont à la fois confortables et elles peuvent nous déranger aussi.
Guillemette Odissino.
Oui, je suis assez d'accord parce qu'elle nous montre aussi que nous, en revanche, nous sommes mortels. Et il y a certaines natures mortes, hein, quand on rajoute juste un crâne, bah, ça donne des vanités.
Ah oui, c'est des vanités.
Et oui, et les vanités nous disent à quel point nous sommes mortels.
Et quand on montre une grappe de raisin, on sait que c'est la décadence romaine. Chaque fois qu'il y a un tableau qui présente les Romains décadents, ils sont en toge, ils ont une coupe, ils ont toujours une grappe de raisin à la main.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté sur l'appli France Inter. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres avec notre chef Grégory Cohen. Alors Grégory Cohen, pour ce week-end, une recette en vogue à New York. Hein.
Oui, alors vous voyez un peu la scène de quand Harry rencontre Sally, Ali, où Meg Ryan simule un orgasme.
Complètement.
Bah voilà, elle se déroule chez Katz, un délicatessen new-yorkais. Alors c'est une des recettes cultes de ce délit que je vais vous proposer, un cheesecake donc, mais un cheesecake sans cuisson, un cheesecake facile. Alors on a besoin d'un fond de tarte évidemment, alors il est relativement simple, 100 g de biscuits cannelle, 30 g de beurre. On mixe les biscuits avec le beurre, on le passe au four à 180 degrés pendant 5 minutes pour que ça croustille et notre fond de tarte est prêt. Pour l'appareil cheesecake, 200 g de crème liquide 30%, 200 g de cream cheese, alors fromage à la crème ou fromage frais, 40 g de sucre glace, 10 g de sucre vanillé. On va monter la crème lentement. Alors pour la réussir à tous les coups, il faut que tous les éléments soient bien frais et que la crème soit riche en matière grasse. Globalement, pour expliquer le mécanisme, le foisonnement du fouet apporte de l'air qui s'encapsule dans la matière grasse de la crème et le froid permet de figer ses billes et du coup d'avoir une belle crème montée. Voilà, donc une fois que la crème est montée, dans un bol, on détend le fromage frais avec le sucre glace et le sucre vanillé. On mélange la crème montée en deux temps. Au fond d'un verre ou d'une verrine, on va mettre le fond de tarte croustillant. Ensuite, une cuillère à soupe de confiture de fraises ou tout autre qui vous ferait plaisir. D'ailleurs, c'est le moment d'apporter sa touche personnelle. Et couler le mélange de cheesecake. On place au frais 2 heures et ensuite, on décore de fruits de saison, évidemment. Ou simplement, on zeste un citron avant de déguster. Voilà, vous êtes arrivé à New York City sur Hudson.
Grégory Cohen, si on n'a pas de cream cheese sous la main, on peut remplacer par quoi ?
Du fromage frais.
D'accord. Ok. Dans votre livre, Philippe Delain, vous parlez du délicatessen Katz.
Oui.
Vous n'êtes jamais allé, mais vous en parlez très bien.
Et en fait, j'avoue même que je n'ai pas vu la scène qui paraît-il fait aussi la gloire de cet établissement.
Quand Harry rencontre Sally. Merci beaucoup, mon cher Grégory Cohen. On peut retrouver votre recette sur votre compte Instagram, Grégory Cohen. Off avec
deux F.
Allez, dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Avançons, on écoute Michel. Expiration date.
I had to get this off my chest, had to be said. You're stuck in my head. You said that it's not black and white, but I know I'm still coming over tonight. Now it might be the last time. Wishing we could go further, but for now it's alright. When I'm feeling blue, I'm up all night, 'cause now my bed feels twice as big. Since you left me and left,
you chose me. Michel, expiration date.
Bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe. Grand bien vous fasse. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu me rends.
Sur France Inter.
Et il est temps de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. Alors Maya, c'est un sujet un peu incontournable en cette période, la politique. Est-ce qu'elle impacte vraiment notre vie sexuelle ?
Alors oui, mais pas toujours en bien. Françaises, Français, camarades, nous abordons un week-end à haut risque. C'est pas moi qui le dis, c'est les sondages. En l'occurrence, seul l'IFOP, 58% des Français refuseraient même une aventure d'une nuit avec quelqu'un dont les opinions politiques sont opposées aux leurs. 22% ont déjà mis un râteau à quelqu'un qui leur plaisait, mais dont les opinions étaient rédhibitoires. Eh ben, quand je pense qu'on entend à longueur de journée que cette campagne n'intéresse personne, faut croire qu'en fait, les politiques devaient nous motiver sous la ceinture. Par contre, pour la logistique, je sais pas comment on est censé faire, s'il faut demander l'air de rien au premier rendez-vous. Et sinon, toi, tu fais quoi, là, dimanche? Et côté pratique, t'es plutôt pratique extrême ou pratique modérée? Donc, comme première conversation, c'est un petit peu difficile. D'habitude, on va pas si loin. Ne parlons même pas des situations dans lesquelles on chope quelqu'un dans un environnement bruyant. Moi, une fois sur deux, je connais pas le prénom de la personne. Alors, si on me demande son bureau de vote, ça va être compliqué.
D'autant que les gens ne disent pas forcément la vérité sur leur vote, hein, Maya.
Oui, la même enquête IFOP montre qu'un quart des hommes ont déjà menti sur leurs convictions politiques pour arriver à leur fin. Quand on est une femme, on apprend très très jeune que les hommes sont prêts à tout. Et ben voilà, un exemple de plus. Cette sournoiserie masculine est d'autant plus épatante que les hommes eux-mêmes sont très rigides sur leurs convictions, puisqu'un quart d'entre eux ont déjà plaqué leur partenaire pour cause de divergences politiques. Si vous mettez ensemble ces deux informations, vous obtenez cette équation. Les hommes sont très sérieux quand il s'agit de leurs opinions politiques, mais ils ne sont pas du tout sérieux concernant les opinions politiques des femmes, puisqu'ils n'hésitent pas à leur mentir comme des arracheurs de dents. Classe, tout ça va se terminer en grève du sexe généralisé, on verra bien qui fera les malins là.
Alors c'est vrai Maya que tu dis souvent dans tes chroniques que le sexe est politique.
Oui, puis je vais le répéter encore une fois, le sexe est politique même en dehors des périodes d'élection. La politique régit la vie de la cité, le sexe fait partie de la vie de la cité. Faut pas s'étonner qu'il y ait plein d'interférences, les droits reproductifs, la prise en compte des violences sexistes et sexuelles, le travail du sexe, les pratiques permises ou pas par la loi. Et puis bien sûr, le sexe, c'est pas seulement le sexe qu'on fait, les pratiques, c'est aussi le sexe qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on veut modifier. Sur ce terrain, les programmes des candidats sont loin d'être interchangeables. J'invite les personnes intéressées par l'égalité des genres à consulter sur internet le féministomètre, d'oser le féminisme. Et pour les droits LGBT+, il faut aller sur le site de tétu.com, vous saurez tout. Conclusion, c'est dans les urnes que se décide en partie ce que vous faites au lit. Vos organes génitaux sont donc tout à fait à leur place dans l'isoloir. Et là, si je ne vous ai pas donné envie de voter dimanche, franchement, je ne sais plus quoi faire.
Guillemette, vous avez l'air d'acquiescer.
Ah bah oui, oui. Déjà que j'avais bien l'intention de voter dimanche, mais là, ça devient quasiment excitant.
La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule, à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Merci beaucoup Philippe Delerme d'être venu. Je recommande vraiment New York, sans New York, c'est publié au Seuil. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans l'émission Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron, André Manoukian et Christophe André. Et lundi, comment préserver sa vision, vos questions sur la vue dès maintenant sur l'appli France Inter.